en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Françoise Combe, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à Canal Académie, notre studio au cœur de l'Institut de France. Bienvenue dans En habit vert, une émission de Canal Académie qui propose donc aux internautes de faire la connaissance des académiciens à travers leurs travaux. Aujourd'hui, donc, c'est vous, Françoise Combe, que nous recevons. Vous êtes donc membre de l'Académie des sciences dans la section des sciences de l'univers. Vous êtes astrophysicienne et spécialiste de la dynamique des galaxies. Actuellement astronome à l'Observatoire de Paris, vous dirigez le programme national Galaxie du CNRS et vous êtes également présidente du CNFA qui est le Comité National Français d'Astronomie. Vous nous en direz quelques mots à la fin de notre rencontre. Nous allons donc revenir sur vos travaux. Alors, vous avez découvert de nombreux phénomènes permettant d'expliquer la formation des galaxies et leur évolution. Est-ce que tout simplement vous pourriez déjà nous replacer dans le contexte? Qu'est-ce qu'une galaxie?
Oui, alors nous connaissons les galaxies depuis le début du XXe siècle. Au départ, on pensait qu'il s'agissait de nébuleuses. D'ailleurs, on parle souvent de la nébuleuse d'Andromède. On ne savait pas qu'il s'agissait d'un monde à part, d'une galaxie à part la Voie lactée qui est notre propre galaxie. Donc ce n'est que Hubble, avec Chapelet dans les années 1924-25, qui s'est aperçu qu'il y avait des ensembles donc d'étoiles, de gaz, de poussière, qui se meuvaient dans le ciel comme cela, un petit peu indépendants. Donc on a découvert les galaxies extérieures à la nôtre, à la Voie lactée. Donc on sait maintenant que la nébuleuse d'Andromède n'est pas une nébuleuse comme les nuages de gaz d'Orion dans la galaxie, mais une galaxie à part. On ne pouvait pas s'en apercevoir à l'époque, les télescopes n'avaient pas assez de sensibilité. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a évidemment des milliards de galaxies, même peut-être un nombre infini. Et on a des galaxies de différents types. Donc on a des galaxies spirales
qui sont trois types de galaxies
à peu près. Donc des galaxies spirales qui sont formées d'un disque, un petit peu un disque aplati de gaz surtout. Et donc les nouvelles étoiles se forment dans le gaz interstellaire. Et puis des galaxies qui sont un peu elliptiques, qui n'ont pas beaucoup de gaz, donc qui n'ont pas la forme d'un disque, mais qui sont comme des bulbes de galaxies elliptiques, plus ou moins ronds, et puis des galaxies régulières qui n'ont pas vraiment de forme. Donc ça, c'est des galaxies de petite masse qui ne sont pas encore assez évoluées pour avoir une forme. Donc on pense aujourd'hui qu'il y a une évolution d'une galaxie irrégulière, qui est une galaxie naine en fait, vers les galaxies géantes qui sont les galaxies spirales. Il y a différents types de galaxies spirales, on peut les appeler SA, SBSC.
Oui, elles mesurent à peu près 100 000 années-lumière, c'est ça, de diamètre.
Oui, à peu près, voilà. Il y en a des petites, des grosses, mais c'est la taille moyenne, comme la Voie lactée, qui est notre propre galaxie. Et donc, on pense que peu à peu, le gaz qui va s'effondrer va tourner en forme de disque, parce qu'il y a un moment angulaire, enfin, il tourne assez vite, et donc, ce qui empêche toute la matière de tomber vers le centre, c'est la rotation, la force centrifuge en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il se forme un disque. Peu à peu, la matière va quand même tomber vers le centre. Et puis, au cours de cette retombée, il va y avoir formation d'étoiles qui brillent. Donc c'est pour ça qu'on voit les étoiles formées dans les bras spiraux en général. Bon, j'expliquerai peut-être plus tard comment on forme les bras spiraux.
Voilà.
Et puis, peu à peu, la galaxie vieillit. Et donc, on pense qu'il y a aussi pas mal de collisions de galaxies. Et donc, c'est lorsque deux galaxies spirales entrent en collision, on forme des galaxies elliptiques.
Les galaxies, en fait, ne sont pas statiques.
Elles évoluent tout le temps. Elles se déplacent, mais aussi elles évoluent de forme, et puis elles interagissent les unes avec les autres, elles fusionnent, et on pense que les grosses galaxies sont formées de la fusion de plus petites.
Donc, vous avez découvert les phénomènes permettant d'expliquer la formation. Mm-hmm. Comment elles se forment?
Alors là, c'est un phénomène que, évidemment, on a tracé dans le siècle dernier par un petit peu de la paléontologie, c'est-à-dire qu'on regardait l'âge des étoiles, les vieilles étoiles qui sont formées au début, et on essayait de remonter l'histoire. Mais il faut dire que depuis le télescope Hubble, le télescope spatial, on a arrive maintenant à remonter le temps et à voir les galaxies qui évoluent en temps réel. Donc ça, c'est une nouveauté qui fait faire beaucoup de progrès à ce secteur de la science. On voit des galaxies au début de l'univers, de leur formation, jusqu'à aujourd'hui. Donc on remonte dans le temps. Alors pourquoi on remonte dans le temps? Il faut quand même le dire. C'est que comme la lumière a une vitesse finie, et que la lumière met un certain temps à nous parvenir, elle met des milliards d'années, parfois elle met l'âge de l'univers à nous parvenir. Donc on arrive à voir les galaxies telles qu'elles étaient au début de l'univers, donc on arrive à retracer l'évolution en direct de la galaxie.
Oui, en fait, vous les voyez telles qu'elles étaient en fait il y a plusieurs millions d'années.
Oui, même jusqu'à 10% de l'âge de l'univers, on voit des galaxies. Donc on voit des galaxies jeunes, on voit des galaxies moyennes, on voit des galaxies vieilles aujourd'hui. Donc on arrive à remonter, ça date d'une dizaine d'années, on n'arrivait pas à le faire avant.
Alors, quels sont les outils que vous utilisez ? Le télescope, bien sûr, mais est-ce que vous utilisez aussi la simulation numérique ? Comment ça se passe ?
Oui, alors là, on a une interaction très vivante entre les simulations, la modélisation et les télescopes. On a beaucoup de télescopes, toutes les longueurs d'onde, puisqu'on va des rayons gamma à la radioastronomie. Évidemment, le télescope spatial a fait beaucoup de progrès, puisqu'il a énormément de résolution spatiale. On s'affranchit de l'atmosphère pour les télescopes optiques. Dans les télescopes optiques, l'atmosphère nous brouille les images jusqu'à une seconde d'arc, et on va bien en dessous, à 0,1 seconde d'arc ou en dessous. Donc ça permet de voir toutes ces galaxies qui sont très petites. Autrefois, évidemment, d'abord on va très très loin, mais aussi les galaxies étaient plus petites autrefois, puisqu'elles se sont grossies par fusion entre elles. Donc on a des galaxies plus nombreuses et plus petites qui ensuite sont fusionnées pour former un petit peu comme un arbre, jusqu'à des grosses galaxies aujourd'hui. Donc on sait qu'on a 10 fois plus de galaxies autrefois.
Alors, vous avez également mis dans vos nombreux travaux, vos nombreuses recherches, vous mettez également en évidence le rôle des barres dans l'évolution des galaxies spirales. Donc, vous avez parlé des diverses sortes de galaxies. Donc, vous mettez en évidence le rôle des barres dans l'évolution des galaxies spirales et leur transformation le long de la séquence de Hubble. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ça ?
Oui, vous êtes aperçu il y a très longtemps, Hubble et Sandage, son élève, qu'il y avait deux branches, un peu un diapason,
oui, le diapason
à la séquence de Hubble. Et donc, une des branches du diapason, c'est les galaxies barrées. Donc, ils ont une barre d'étoiles au centre dans laquelle les bras sortent des bras, enfin de là-bas. Et puis, des galaxies qui ont seulement des spirales sans barres. Et on pensait que les barres étaient une exception. On s'aperçoit aujourd'hui que les trois quarts, même un peu plus, des galaxies sont barrées. Donc la règle, c'est plutôt la barre que la spirale toute seule. Et on ne savait pas très bien autrefois, avant la simulation numérique, comment cette barre pouvait arriver. Et les simulations numériques sont justement montré comment on pourrait former une barre. Et on sait maintenant aujourd'hui que toutes les galaxies vont passer par ce stade barré. En fait, c'est quelque chose qui, on ne n'est pas barré ou on n'est pas non barré, mais toutes les galaxies vont aller dans des phases barrées puis des phases non barrées.
C'est une étape, en fait.
C'est une étape. On va pouvoir avoir deux ou trois barres dans la vie d'une galaxie, en fait. Et une galaxie passe de l'état barré à l'état non barré et ainsi de suite. Alternativement, il y a plusieurs épisodes.
Et alors, à quoi servent ces barres ? Est-ce qu'elles ont une utilité ?
Ah oui, elles sont très très utiles. C'est justement comme ça que la galaxie se construit, puisque la construction de la galaxie, c'est de ramasser le plus de masse possible vers le centre, de former un bulbe, justement, de concentrer de plus en plus de masse. Au départ, la masse est très diluée, et la gravité va avoir tendance à attirer toute la masse vers le centre. Mais, comme on le disait, la force centrifuge empêche cette masse de tomber, puisque la rotation va contrecarrer la gravité. Et donc, ces barres font une structure non axisymétrique, et qui va produire des couples. La symétrie est brisée, il va y avoir des forces tangentielles qui vont échanger le moment angulaire de la matière, donc il y a un petit peu de matière qui va partir vers l'infini, et tout le reste va pouvoir tomber vers le centre. Donc en fait, la barre aide la galaxie à tomber, enfin à se collapser, à s'effondrer sur elle-même, et à former un bulbe, et puis on va le voir, peut-être un trou noir central où toute la masse va tomber.
Alors voilà, ce sont des barres secondaires qui sont près du noyau, qui vont à terme provoquer des trous noirs.
Oui, alors en fait, la grande barre n'est pas assez résolue au centre, elle s'arrête à un moment donné. Il y a une résonance entre les mouvements de la barre et des étoiles qui font qu'on accumule la masse dans un petit anneau qu'on appelle anneau nucléaire, parce que c'est un anneau assez petit qui fait à peu près le dixième du rayon de la galaxie. Donc là, on le voit d'ailleurs dans les galaxies barrées, il y a souvent des anneaux nucléaires avec la formation d'étoiles sur cet anneau, un anneau brillant. Mais la matière reste là. Donc si on veut aller plus loin pour aller vers le centre, il faut un relais, il faut une autre asymétrie qui va encore provoquer cette chute de matière. Et en effet, il peut y avoir plusieurs stages de barres. Une grande barre, puis ensuite à l'intérieur, une petite bébé barre, si on veut, qui est vraiment à l'intérieur de l'anneau. Et ainsi de suite, il peut y avoir trois étapes comme ça, des barres imbriquées.
Et qui vont pouvoir provoquer des trous noirs.
Voilà, ça poursuit un peu l'interaction de la chute de la matière. Et la matière va aller de plus en plus vers le centre avec les barres successives.
Ces découvertes de trous noirs, en fait, à quel moment on l'a découvert ? C'est récent ?
Alors, on pensait qu'il y avait des trous noirs déjà depuis très longtemps. C'est même Laplace qui avait prédit qu'il y aurait ces trous noirs. Il y a des trous noirs de différents types, je le dis tout de suite. Il y a des trous noirs de masse stellaire. La vie d'une étoile, lorsqu'elle est assez massive, passe par une supernovae, une phase de supernovae, et ensuite peut-être un trou noir si la masse qui reste est assez grande. Donc ça, c'est un trou noir de masse solaire, on dirait. Donc ça, on sait depuis longtemps qu'il y a des étoiles binaires dans lesquelles une des composantes de la binaire est un trou noir. Par contre, ce dont on parle, c'est les trous noirs énormément massifs, qui font un milliard de masse solaire, donc c'est un milliard de fois plus massif. Et là, il n'y en a qu'au centre des galaxies. Enfin, ils sont tellement massifs que de toute façon, ils atterrissent toujours au centre de la galaxie. Et ils sont nourris par la galaxie. Et on pense, alors là, par contre, on le sait que depuis très peu de temps, depuis une dizaine d'années, que chaque galaxie a un trou noir au centre. On pensait que parfois, il n'y en avait que quelques-unes.
Comme en fait, il y a des dizaines de milliers de galaxies, il y a des dizaines de milliers de trous noirs.
Oui, chaque galaxie a son trou noir. On pensait qu'il n'y avait que certaines galaxies actives, parce qu'il y a des quasars, ce qu'on appelle quasars, qui sont des noyaux actifs. En fait, maintenant, on sait que la plupart du temps, le noyau n'est pas actif, mais le trou noir est évidemment toujours là. Et chaque galaxie va passer par un stade d'activité.
Est-ce que trou noir et matière noire, c'est la même chose?
Ah non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le trou noir, c'est de la matière finalement ordinaire. Enfin, ça pourrait être aussi de la matière noire. Mm-hmm. Mais c'est essentiellement de la matière ordinaire, du gaz, des étoiles qui tombent et qui sont dans un état si condensé que même la lumière ne peut pas sortir. La vitesse d'échappement est supérieure à la vitesse de la lumière. Donc, tout ce qui tombe sur le trou noir ne pourra jamais en sortir, et même la lumière. D'où le nom de noir. En fait, ils sont très très lumineux parce que la matière, avant de tomber dans le rayon ultime où on ne verra plus de lumière en sortir, il y a quand même un disque d'accrétion de matière qui émet énormément de lumière, que ce soit en rayons X, en rayons gamma, mais aussi en optique. Et donc, d'où ce phénomène de quasars, de noyaux très actifs qu'on voit aux confins de l'univers tellement ils sont brillants.
Alors, est-ce que vous pourriez nous parler à ce moment-là de la matière noire, qui a à voir aussi quand même avec vos travaux?
Oui, tout à fait. En fait, la plupart de la matière dans les galaxies est noire, c'est-à-dire qu'on connaît par la dynamique le montant de la matière, toute la matière qu'il y a dans une galaxie, mais on ne la voit pas. Donc il y a une matière visible qui sont les étoiles, le gaz qui rayonne, des nébuleuses. Par contre, tout le reste de la matière, on sait qu'elle est là parce que la vitesse du gaz qui tourne autour nous montre qu'il y a beaucoup de masse, mais on ne la voit pas, donc elle est noire. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est.
On ne sait, sait toujours pas ce que c'est. Alors justement, je vais me permettre de lire un article que vous avez rédigé. Mm-hmm. C'était dans le bulletin de la Société française de physique, SFP. En mai 2004, donc je vous cite, « Durant la dernière décennie, notre vision de l'univers a connu une profonde révolution due essentiellement au progrès de la cosmologie observationnelle. Nous savons actuellement que l'univers est en expansion accélérée et que sa courbure est nulle. La composition de l'univers se précise, la matière visible ne représentant qu'une infime partie. Nous savons qu'il existe de la matière ordinaire, baryonique, invisible en bien plus grande quantité, et encore plus de matière noire non baryonique dont la nature est encore inconnue. Et finalement, le composant qui domine aujourd'hui est la fameuse énergie noire dont la nature donne naissance à beaucoup de théories encore très spéculatives. »
Oui, ça paraît assez compliqué. Il y a un vocable matière noire, mais en fait, il y a plusieurs matières noires. C'est ça qui est assez complexe. En effet, on connaît maintenant, de par les travaux de cosmologie au début de l'univers, juste après le Big Bang, on a une soupe de particules et on a aussi beaucoup de photons, le rayonnement fossile cosmologique. Et maintenant, avec cette étude de ce rayonnement fossile, on sait exactement quelle est la proportion de baryons, de matière ordinaire, et d'autres matières. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il y a à peu près 5% du total qui est fait de baryons. Pourquoi on n'en voit que 0,5%? C'est-à-dire que toutes les étoiles, tout ce qui rayonne n'est que 0,5%.
D'accord.
Du total, de toute l'énergie et la matière qu'il y a dans l'univers. Donc on sait qu'il y a 90% de la matière ordinaire qui est toujours noire. Donc ça, on ne sait toujours pas ce que c'est non plus. Mais là, par contre, on sait que c'est de la matière ordinaire, c'est-à-dire sans doute l'hydrogène, etc. Et puis, on sait qu'il y a en plus, 6 fois plus, de matière qui n'est pas du tout baryonique. Et on ne sait pas du tout de quoi elle est faite. Ce ne sont pas des baryons, c'est-à-dire on ne sait pas du tout quelles sont ces particules, mais on sait qu'elle n'interagit pas avec les photons ou les autres particules seulement que par la force de gravité. C'est ça qu'il faut, c'est la seule contrainte qu'on ait.
Et donc actuellement, vous travaillez dessus.
Voilà. Alors, on fait des simulations numériques pour cela. C'est-à-dire qu'on essaie de voir combien elle doit être distribuée dans l'univers pour essayer de connaître sa nature. C'est-à-dire qu'on fait des simulations avec plusieurs hypothèses et on regarde si le résultat des simulations correspond aux observations. Et ainsi, ça permet de contraindre cette matière noire, de savoir de quoi elle est faite.
On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite après.
Bonjour, c'est Hélène Renard. Je vous invite tous les jours sur Canal Académie pour l'émission Au fil des pages. L'actualité littéraire, les livres des académiciens, ceux dont ils recommandent la lecture, ou encore les ouvrages déposés sur le bureau de l'Académie des sciences morales et politiques lors des séances. Chaque jour, je vous invite à la lecture, à la découverte de l'histoire, de la société, des femmes et des hommes qui font l'actualité littéraire. C'est dans Au fil des pages. À tout à l'heure.
Suite de notre émission en habit vert, en compagnie de Françoise Combes, astrophysicienne. Alors, Françoise Combes, vous travaillez à l'Observatoire de Paris et au CNRS. Est-ce que vous avez deux fonctions différentes dans ces deux institutions?
En fait, non. On a en effet ces deux tutelles, CNRS et Éducation nationale, puisque l'Observatoire de Paris est équivalent à l'université. Mais évidemment, on travaille vraiment en synergie. Les chercheurs qui sont dans le même laboratoire sont parfois relèvent du CNRS ou relèvent de l'Éducation nationale. c'est vraiment transparent pour nous, donc on travaille vraiment comme si on était d'une seule institution. Mais c'est sûr qu'on a des fonctions différentes, c'est-à-dire par exemple, nous nous occupons au niveau national de toutes les équipes qui travaillent sur les galaxies, donc nous essayons d'animer et de regarder notre collaboration européenne et internationale. Donc on a beaucoup de projets différents, je ne sais pas si on aura le temps d'évoquer
si.
Beaucoup de projets.
Si. Oui, donc on vous a beaucoup... même déjà nous en parler.
Voilà, donc on a beaucoup de télescopes qui aujourd'hui se font à l'échelle internationale, européenne et même mondiale. Par exemple, nous avons le projet ALMA, qui est un projet de 64 antennes en millimétrique, en ondes millimétriques, qui va être construit au Chili, qui est en train de se construire au Chili, dans le désert d'Atacama. Et c'est vraiment 10 fois plus que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les instruments millimétriques de l'IRAM, par exemple, le plateau de Bure en France et en Espagne.
Il va servir à quoi ?
Alors celui-là va servir à détecter, par exemple, les galaxies très lointaines au début de l'univers. Alors pourquoi ? Parce que dans ce domaine de longueur d'onde millimétrique, comme le rayonnement est très décalé vers le rouge, vu de l'expansion de l'univers, donc tout ce qui est normalement émis par la poussière chaude à 100 microns, maintenant va être, disons, décalé vers le rouge, vers un millimètre, ou ces longueurs d'onde-là. Et on s'aperçoit que des galaxies qui sont très très lointaines, à 10% de l'âge de l'univers, sont aussi brillantes dans ce domaine-là qu'aujourd'hui localement. Il y a une petite inversion cosmologique.
C'est comme si, en fait, elles rajeunissaient.
Elles rajeunissaient, parce qu'en fait, on les voit comme on les verrait aujourd'hui dans l'infrarouge. Et donc, d'habitude, dans le millimétrique, elles sont beaucoup plus faibles, mais tout d'un coup, toute la lumière infrarouge nous tombe dans ce domaine millimétrique, et c'est pour ça qu'elles sont plus brillantes dans ce domaine-là qu'aujourd'hui en millimétrique. Donc là, c'est vraiment l'instrument qui va bouleverser l'étude des galaxies au tout début de l'univers.
Et quand est-ce que ce sera prêt ?
Alors, les premières antennes vont être en 2008, et puis après, il y aura une antenne par mois. Puis après, on pense qu'en 2011-2012, ce sera complètement complet, mais on pourra déjà commencer à observer en 2008.
Vous nous parliez donc de plusieurs projets. Est-ce qu'il y a d'autres ?
Alors, il y a ce projet millimétrique. Il y a un énorme projet centimétrique aussi, qui s'appelle SKA, c'est-à-dire Square Kilometer Array. Donc, ce sera une surface de télescope équivalente d'un kilomètre carré. Et là, on va pouvoir justement détecter énormément de galaxies pour faire la statistique et la géométrie de l'univers. On pourra détecter 1 milliard de galaxies. Il faut dire que c'est un progrès énorme. Aujourd'hui, les surveys de galaxies se montrent, par exemple, il y a ce qu'on appelle le Sloan Digital Sky Survey, qui est fait par les Américains, et qui est une révolution parce qu'en 4 ans, il a observé 1 million de galaxies. Le dernier survey, ce n'était que 10 000 galaxies.
Ouais.
Donc et là, on passe au milliard. C'est-à-dire que chaque jour, on aura 1 million de galaxies observées. Ce qui est faramineux.
Enfin, oui.
Heureusement que les ordinateurs qui permettent de réduire les observations iront jusque-là. Alors on pense qu'on aura une grande partie du ciel observé pour avoir ce milliard de galaxies. Et la statistique sera tellement précise qu'on pourra contraindre les propriétés de l'énergie noire par justement l'antigravitationnel sur les millions de milliards de galaxies. Et on aura une précision même pas de 10%. Donc on pourra vraiment savoir de quoi est faite cette énergie noire. Est-ce que c'est une constante cosmologique ? Est-ce que c'est une quintessence ? Etc. Donc ça, ce sera pour 2015-2020.
À chaque fois, ce sont des projets qui sont réalisés dans le domaine international.
Voilà. Ça, c'est deux projets dont je viens de citer, ALMA et SKA. C'est vraiment les Américains, des Japonais, des Australiens, des Européens. Tout le monde, il n'y a pas de projet concurrent. C'est le seul projet qu'on peut faire.
Dans lequel vous jouez un rôle ?
Ah oui, la France joue son rôle. Mais évidemment, notre rôle est de plus en plus petit puisque maintenant, les Américains jouent... Il y a toujours 50% Américains, 50% Européens. Quoi. On joue à jeu égal avec les Américains, mais on est quand même une quinzaine de pays.
Alors, Françoise Combes, comment êtes-vous venue en fait à travailler dans ce milieu-là ? Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes, aux internautes qui nous écoutent, internautes et auditeurs, qui s'intéresseraient au domaine de l'astronomie ?
Alors, il y a plusieurs façons de s'intéresser à l'astrophysique. Je pense qu'il y a un grand nombre de nos collègues qui étaient déjà intéressés, enfants, à faire de l'astronomie, à regarder par télescope.
C'était votre cas ?
C'était pas mon cas.
C'était pas mon cas.
Moi, j'étais plutôt théoricienne à l'époque, et donc j'étais plutôt fascinée par la science, la cosmologie, les théories, les théories de formation de l'univers, donc je n'avais pas du tout regardé un télescope avant justement d'entrer dans la profession. Je me suis rattrapée plus tard, puisque j'ai fait quand même pas mal d'observations. Mais il y a donc plusieurs voies. Il faut être très très motivé par la science, par la physique, les maths évidemment, mais enfin on n'a pas besoin d'être un crack en maths, on peut faire de l'astrophysique observationnelle, et surtout être passionné. Je pense qu'il faut être motivé dans ce qu'on fait pour parvenir à quelque chose. Il faut approfondir et il ne faut pas rester de façon superficielle dans un sujet, pour être vraiment un acteur dans ce domaine-là.
Mais je suppose que les places sont quand même limitées en astrophysique.
Et oui, les places sont limitées, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de compétition. Beaucoup de personnes font des études en astrophysique et ensuite se se recase essentiellement en informatique ou dans le spatial, etc. Donc il y a beaucoup de débouchés. Mais il faut dire que sur le grand nombre de thèses qui se font, il y a peut-être une centaine de personnes chaque année qui font une thèse dans ce domaine, astrophysique ou relié. Et il y en a peut-être 30% qui trouveront une position. Donc les deux tiers s'en vont un petit peu ailleurs.
Et alors vous, Françoise Combes, vous avez trouvé votre voie directement, vous avez été prise directement au CNRS ou à l'Observatoire de Paris, quel était votre chemin ?
En fait, bon, moi je sortais de l'école normale, donc j'avais été d'abord enseignant à l'école normale d'abord, donc une dizaine d'années dans l'enseignement, et ensuite astronome, ce qui continue un peu d'enseignement mais est une charge moins lourde d'enseignement. Astronome a aussi un aspect, disons, tâche de service, c'est-à-dire un aspect aide au télescope et ces choses, ce genre de choses, donc on a des activités variées entre un petit peu d'enseignement, un petit peu d'instrumentation et puis de la recherche propre qui est la recherche théorique, simulation, modélisation, etc.
Alors vous êtes également présidente du CNFA, c'est le Comité National Français d'Astronomie. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? C'est une vocation internationale, je crois. C'est une association.
Voilà, c'est une association et qui regroupe en fait les Français entre eux, les astronomes professionnels, de manière à faire le lien avec notre interaction internationale. Donc il y a une union internationale pour l'astrophysique qui est l'UAI, Union Astronomique Internationale justement, qui est très active et qui permet à tous les astronomes de se retrouver dans des rencontres. Chaque année, il y a plusieurs rencontres sur tous les sujets, que ce soit des étoiles, des galaxies, etc. Et c'est au niveau international que ça se précise. En effet, il ne faut pas que une année, il y ait 3 conférences sur une galaxie, puis il faut attendre 10 ans pour avoir une conférence sur les étoiles. Il faut qu'il y ait une cohérence. Donc, de façon internationale, il y a des comités qui prévoient et qui harmonisent toutes ces manifestations, donc plusieurs manifestations par an. Et puis, tous les 3 ans, il y a une réunion générale où il y a peut-être 2 ou 3 000 astronomes qui se réunissent dans un pays. Donc, par exemple, en 2006, ça va se trouver à Prague. En 2003, c'était en Australie, à Sydney. Et dans cet énorme, il y a 15 jours de réunion où il y a plusieurs symposias sur plusieurs sujets. Et les astronomes se rencontrent entre eux dans diverses disciplines. Ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement une rencontre sur un sujet donné, mais c'est tous les astronomes en général. Et il y a beaucoup d'interactions entre tous les astronomes et toutes les disciplines.
Mais alors voilà, est-ce que vous échangez vraiment toutes vos informations ou est-ce que vous en gardez un peu sous le coude ?
Non, là c'est vraiment un exemple. En astrophysique, tout est public, il n'y a rien de secret. Par exemple, les observations du télescope spatial sont mises même pas un an après lorsque quelqu'un fait un proposal, par exemple, propose d'observer un objet donné. C'est quand même son objet, ses observations. Donc il
les
réduit,
elles ne seront pas reprises par quelqu'un d'autre.
Elles peuvent être reprises, elles sont publiques sur le web, sur Internet. Et donc n'importe qui peut ensuite aller chercher, après quelques mois de propriété quand même, il peut aller chercher ses observations, elles sont publiques pour tout le monde. Quelqu'un dans un pays qui n'est pas très fortuné, qui ne peut pas justement faire des observations sur plusieurs télescopes, peut aller sur Internet et on a une espèce d'observatoire virtuel qui met à disposition toutes les observations qui ont été faites dans le monde entier. Donc ça, c'est, je crois, que les astronomes sont les premiers à avoir mis dans le public toutes les ressources, quoi, toutes les données qui sont observées, que ce soit dans toutes les longueurs d'onde, donc en millimétrique, en optique. Maintenant, tous les télescopes mettent à disposition pas plus d'un an après.
Alors aujourd'hui, vous êtes académicienne depuis maintenant 2 ans. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, le fait de venir de temps en temps à l'académie ?
Oui, en fait, cet échange avec les autres académiciens est très intéressant. En fait, ça nous sort un petit peu de notre domaine, puisqu'on avait l'habitude d'être toujours entre astronomes, etc. Là, on voit toutes les autres sciences. Bon, on voit d'abord les sciences de l'univers, mais ça, on était assez proches. Mais on voit aussi d'autres sciences, maths, physique, ou même biologie, médecine. Et cet échange est très fructueux. Ça nous fait prendre un petit peu de recul. Et un petit peu d'expérience nouvelle et d'échange d'expérience entre les autres scientifiques, et c'est très riche.
C'est le fait de rencontrer d'autres académiciens.
Voilà, c'est cela, parce qu'il y a des séances, il y a des votes, on distribue beaucoup de prix, on fait beaucoup de manifestations, des rapports à faire sur des demandes du gouvernement, par exemple. Mais à l'occasion de ces rencontres, alors il y a beaucoup de discussions entre académiciens et donc ces échanges entre plusieurs thématiques qu'on n'avait pas l'habitude de faire, puisqu'on était quand même à l'intérieur d'une seule discipline, sont quand même très riches et sont nouveaux.
Une dernière question, Françoise Combes, juste pour revenir sur vos travaux actuels, justement, en quoi consiste et qu'est-ce que vous aimeriez découvrir là aujourd'hui ?
Alors là, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent, donc il faut que j'en choisisse une.
Oh, dites-vous les 3.
Alors, 3, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Nous, on s'intéresse beaucoup à ces baryons noirs, donc on a parlé tout à l'heure, parce que ça nous semble un peu plus proche. On sait cette matière noire, de quoi elle est faite. On sait que c'est des atomes d'hydrogène et on a émis l'hypothèse que peut-être il s'agissait de gaz froid. Donc, on essaie de prouver qu'il existe en effet beaucoup de nuages d'hydrogène moléculaire froid dans l'espace autour de la galaxie. Donc, on a essayé de lancer une manip spatiale avec le CNES et avec l'ESA, qui est en cours, qu'on essaie d'affiner, etc., qui est en phase A d'étude. Et donc, si ce télescope sera dédié à l'observation des nuages d'hydrogène moléculaire froid, on espère essayer de prouver notre hypothèse. Donc déjà, ça, c'est une voie de recherche. Et peut-être une deuxième, c'est d'aller un peu plus loin, comment se forment les galaxies, même avec la matière noire non baryonique. Alors là, on a lancé un grand projet sur 4 ans, qui s'appelle le projet Horizon.
De simulation, un projet européen ou un projet français?
Français. Là, on a pensé qu'il fallait d'abord se regrouper au niveau français pour avoir une plus grande force au niveau européen, parce qu'on a un petit peu de retard, je pense, au niveau simulation numérique. Donc on a un projet français, et sur 4 ans, on a demandé de nouvelles machines qui sont un petit peu compétitives avec ce qu'il fait au niveau européen, et on lance d'énormes simulations de milliards de particules. Pour l'instant, jamais fait, on s'était limité à 1 million. Donc là, c'est d'énormes simulations. On espère, dans 4 ans, avoir des réponses sur la formation des galaxies.
Une troisième, peut-être?
Là, il s'agit d'énergie noire, je penserais, l'étape suivante. Et donc, alors là, on prépare. Là, on fait partie des groupes de travail qui travaillent sur justement le projet SKA, dont j'ai parlé tout à l'heure. Oui. Alors là, ce sera pour 2015. Hein, mais il faut quand même préparer les programmes, peut-être observer sur d'énormes télescopes. Aujourd'hui, il y a des télescopes de 100 mètres de cette longueur d'onde. Donc, on essaie de préparer les programmes qui pourront être faits avec ce projet grandiose.
Merci. Françoise Combes, je suppose que vous repartez dès maintenant à l'Observatoire de Paris.
Voilà.
Voilà, continuez vos recherches. Merci en tout cas de nous avoir accordé une demi-heure. Et puis, quant à nous, on se dit à bientôt. Merci, au revoir.
Au revoir.